Je vous rappelle que c'est jour de vote aujourd'hui, donc ne manquez pas d'aller exercer votre devoir de citoyen. Vous savez que c'est ouvert en ce moment, ça ferme à 20h aujourd'hui, donc prenez bien le temps d'y aller, n'oubliez pas. Vous devez d'ailleurs apporter avec vous des pièces d'identité, ça peut être votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, un passeport, ça fait l'affaire aussi. Et vous pouvez même amener vos jeunes, parce qu'il y a même des petits bureaux de vote qui sont dans la plupart des circonscriptions, là. Dans la plupart des bureaux de scrutin, on a une petite table avec l'occasion pour les jeunes d'aller exercer leur vote, puis on leur pose des questions. Pourquoi penses-tu qu'il est important de voter? A, pour que les idées de chaque personne soient entendues. B, pour choisir des personnes qui vont travailler pour moi. C, pour régler des problèmes. D, pour dire ce que je pense. Il aurait pu mettre « toutes ces réponses, ou à peu près. Hein? Mais en tous les cas, c'est important. Donc, allez-y aujourd'hui. On va parler de santé mentale et surtout d'un sujet en particulier qui peut vous avoir préoccupé, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui sont préoccupés par la santé mentale. Peut-être pas assez les gouvernements, puisqu'on sait que la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre. Hein? Très difficile d'avoir un diagnostic. On en a déjà parlé, vous et moi. Parler de sa santé mentale avec ses enfants, c'est pas une mince affaire. D'abord, ça sous-entend qu'on est soi-même qu'on soit rendu compte qu'on a un problème de santé mentale. Puis après, c'est de trouver les mots. C'est trouver les mots, trouver le moment, trouver la façon, sans se sentir coupable, sans se dire « mon Dieu, que je suis un mauvais parent ». Il y a un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par la pédopsychiatre Dr Céline Lamy, qui est avec moi. Bonjour Dr Lamy, bonjour, merci beaucoup d'être là. Ça s'intitule « Il pleut à la maison ». Parler de votre santé mentale avec vos enfants, pas une mince affaire. Et c'est d'entrée de jeu, vous le dites, pourquoi vous avez écrit ce livre-là? Parce que vous-même, vous avez été ce parent qui est passé par toutes ces étapes de la culpabilité à la tentative de l'expliquer. Et comme psychiatre, on s'imagine que c'était pas facile, que c'était facile pour vous. Or, ça l'était pas forcément.
C'était pas évident. Ça allait pas du tout de soi. Au départ, j'aurais pu écrire le livre en disant c'est juste un avis de professionnel. Mais dans le livre, je dis justement, osons être vulnérables, osons montrer notre authenticité. Puis il s'agissait pas de me cacher derrière mon titre. Donc j'ai choisi de parler de cette histoire. Et effectivement, quand j'ai été frappée par la dépression, j'ai choisi de faire comme si le ciel était bleu, alors qu'il pleuvait à la maison. Puis j'ai réalisé rapidement qu'il y avait des conséquences sur les enfants, beaucoup. Donc très mauvais choix. Mais le choix qu'on fait tous quand on est atteint de maladies mentales, on se cache parce qu'on a honte, on se sent coupable, donc on reste dans le secret.
Et vous ne l'avez pas vu venir du tout, hein, docteur Lamy?
Pas du tout. J'ai été frappée en plein vol, incapable de fonctionner très rapidement. Et puis, il a fallu s'ajuster très, très vite. Les enfants allaient en maternelle à l'école. Donc, on a fait le choix avec mon mari de jouer une forme de comédie, c'est-à-dire de jouer au super parent, à la super maman. Mais les enfants s'en sont rendus compte très, très vite. En fait, c'est ce que j'écris dans le livre. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils ressentent absolument tout. Et puis, ça va générer beaucoup d'angoisse chez eux, beaucoup de questionnements, notamment vont se mettre au centre de la culpabilité en disant si maman sourit pas ou si maman pleure, je suis probablement responsable.
C'est ça.
Puis c'est ça, peut-être se dire je suis pas un bon garçon ou j'ai pas de bonnes notes. Donc
c'est à cause de moi, c'est si maman
à cause
va pas
de
bien.
Moi, exactement. Ouais.
Justement, quelqu'un qui connaît bien ça, c'est Jean-Philippe Dion, l'animateur bien connu. Jean-Philippe qui est aussi porte-parole du réseau Avant de craquer. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à vous deux.
Toi, tu l'as vécu parce que tu as eu l'occasion de l'expliquer un peu. Ta mère a souffert de dépression. Toi, comme enfant, tu l'as vécu difficilement, ce bout-là.
Bien, en fait, je trouve ça super intéressant, ce que je viens d'entendre, parce que c'est exactement comme ça que moi, je l'ai vécu. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour un parent de mettre des mots là-dessus, d'expliquer, parce que au moment où ça se passe, la personne va pas bien, donc elle n'est pas en mesure d'expliquer correctement. T'sais, même elle, des fois, je sais pas si vous, c'était ça, mais donc, ma mère, t'sais, elle était aussi dans un refus, t'sais, parce que pour elle, elle allait bien. Là, c'était le monde autour d'elle qui n'allait pas bien. Donc, c'est sûr que pour un enfant, c'est difficile de comprendre, mais en même temps, on est hyper sensible. On sent que ça va pas bien, on sent que c'est lourd à la maison aussi. Moi, je me souviens à l'âge de 10 ans, t'sais, d'aller à l'école avec des maux de ventre parce que j'étais super angoissée. Je savais pas dans quel état j'étais pour retrouver ma maman au retour. T'sais, donc, c'est vraiment des images fortes, des émotions intenses aussi qu'on vit comme enfant. Puis, juste d'essayer de comprendre ça, c'est quelque chose.
Et qu'est-ce que ça a fait comme toi, là, ta réaction? Parce que dans le livre du docteur Lamy, que je te conseille si tu ne l'as pas lu, là, il faut absolument que tu lis, Jean-Philippe, parce que là-dedans, on décrit bien tout le cheminement de l'enfant. L'enfant va avoir tendance à devenir le parent du parent, n'est-ce pas, docteur Lamy?
Tout à fait, parentifier. Prendre en fait la responsabilité du mieux-être, voire de la guérison du parent. Oui. Donc en essayant d'être l'enfant idéal, avoir des bonnes notes, ramener des dessins. Donc il se dédie littéralement aux parents.
C'est ce qui t'est arrivé, Jean-Philippe?
Ben, en fait, moi, c'est que, tu sais, au réseau, avant de craquer, on dit beaucoup, tu sais, on fait partie de la solution. Puis moi, c'est vraiment ce que je pense que la meilleure idée, en fait, c'est que, tu sais, oui, bon, j'ai essayé d'être un bon garçon, mais en même temps, j'essayais aussi d'aider ma mère puis de l'amener vers des ressources. Donc, tu sais, moi, très, très jeune, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé la psychiatre pour lui dire que ma mère n'allait pas bien. J'ai appelé à l'hôpital, j'ai appelé au CLSC, j'ai essayé de trouver des ressources. Tu sais, moi, j'ai
à quel âge? T'avais quel âge?
Ben, 12 ans. Oh. Je me souviens, là, tu sais, j'ai appelé à l'hôpital puis je leur disais que ça avait pas de bon sens, que ma mère ne soit pas vue puis que ce soit dans un mois le prochain rendez-vous alors qu'elle était à la maison puis qu'elle avait de la misère à se lever de son lit, tu sais. Parce que, c'est ça. Donc, c'était très difficile d'avoir des ressources. Mais ma mère a été chanceuse parce qu'elle a été suivie par d'excellents psychiatres à Granby. Puis, tu sais, il y a vraiment un département avec des gens très, très compétents là-bas, là. Mais c'est ça. Donc, très rapidement, moi, j'ai voulu faire partie de cette solution-là puis d'essayer de trouver des solutions, des remèdes. C'était même de questionner la médicamentation. Je me souviens très jeune d'être allé dans le bureau du psychiatre avec ma mère et de questionner, tu sais, c'est l'intervieweur, j'imagine, en moi qui naissait, mais de questionner, de vouloir comprendre, puis d'aider ma mère, donc, à comprendre. Puis, tu sais, tu peux plus aider ton parent quand tu comprends la maladie aussi.
Oui, mais donc, à 12 ans, normalement, c'est ton parent qui est supposé t'aider.
Ouais, mais tu sais, quand il va pas bien, il peut pas t'aider. Ton parent peut pas, tu sais, ma mère, elle était même pas, tu sais, elle travaillait plus à cette époque-là. Elle était un peu désorganisée aussi quand elle était dans des épisodes de rechute. Donc, c'est sûr que ton parent peut pas t'aider. Donc, comme tu le disais, Isabelle, c'est sûr que tu deviens à un moment donné le parent de ton parent. C'est inévitable.
As-tu l'impression que t'as pas eu d'enfance à cause de la maladie mentale de ta mère?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais en même temps, c'est sûr que c'est une enfance avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parce que aussitôt que tu, à un moment donné, tu dis, ah oui, l'automne, ben ça, c'est une période plus difficile pour les gens qui ont des problèmes en santé mentale. Ah oui, ben là, les fêtes aussi, parce que là, c'est les réunions familiales, beaucoup de monde. Ah, au printemps, c'est pas facile non plus, on sort de l'hiver. Tu sais, finalement, ça devenait qu'à chaque période de l'année, ça devenait de plus en plus difficile. Fait que c'est sûr que pour une famille aussi, nous, on a la chance que la famille a pas éclaté non plus. Donc, mes parents sont toujours ensemble, 30 quelques années plus tard. Ça, c'est hyper précieux, parce que mon père est là au quotidien, mais ma sœur et moi, on s'est serré les coudes aussi, on a été très présents également dans tout le processus, puis c'est pas fini non plus. Hein.
C'est oui, comment va ta mère, j'allais te demander, là, comment elle va maintenant?
J'étais avec elle hier, on a cordé du bois en famille, puis elle va bien, mais c'est sûr qu'elle ne travaille plus, il y a plein de choses qui ont changé autour d'elle aussi, puis c'est ça qui est difficile aussi de voir des amitiés qui disparaissent autour d'elle. Il y a des choses comme ça qui sont très difficiles à voir, mais en même temps, tout ce qu'il faut, c'est qu'on aime la personne. Puis moi, c'est ça que j'arrête pas de dire. T'sais, arrêtez pas d'aimer votre parent. Parce que même s'il est dans un épisode psychotique, s'il dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou qui vous blessent, dites-vous que c'est parce que votre parent est malade. Mm-hmm. T'sais. Si une personne a le cancer qui est en période de traitement puis qui est à vif parce que les traitements lui font mal, parce que c'est pas agréable, bien, vous allez comprendre. Bien, c'est la même chose pour une personne qui a des problèmes en santé mentale. Il faut essayer de l'aider. Il faut, oui, peut-être des fois refuser ce qu'elle nous dit parce que ça n'a pas de bon sens, mais il faut essayer de l'aider puis lui donner de l'amour. C'est juste de ça que la personne a de besoin.
Évidemment, votre livre, Dr Lamy, parle de comment les parents doivent le dire à des enfants. Dans le cas de Jean-Philippe, c'est toi qui essayais de dire à ta mère, « Maman, t'as une maladie mentale, il faut que tu t'en prennes soin. » Donc là, les rôles, encore une fois, sont inversés. Comment tu suggères, Jean-Philippe, que le parent en parle, le parent qui se sent différent, qui a peut-être pas mis encore le doigt sur la maladie mentale en particulier, parce que il y en a plusieurs, hein. Il y a la schizophrénie, mais il y a d'autres choses, là. La schizophrénie, c'est peut-être ce qui nous paraît le plus grave, mais il y a plein d'autres. Tu peux être bipolaire, ça peut être le burn-out, la maladie mentale qui est chronique, puis il y a celle qui peut être aussi circonstancielle. Donc, comment tu suggérerais aux gens de parler à leurs enfants de ce qu'ils vivent, de comment ils se sentent?
Premièrement, aller chercher de l'aide, parce que tu sais, moi je porte parole d'agent de craqué, mais c'est un réseau qui a des organismes partout à travers le Québec. Puis je veux en parler parce que Moi, tu sais, quand j'étais jeune, on a eu recours à Oasis en santé mentale qui était à Grimbay, qui est toujours là, qui fait partie de ce réseau-là. Puis justement, tu sais, c'est fait pour aider l'entourage des personnes ayant des problèmes en santé mentale parce que, tu sais, oui, il y a l'hôpital qui traite la personne malade, mais l'entourage aussi a besoin de ressources, de comprendre. Donc, première chose, d'aller chercher de l'aide comme ça. Mais après ça, juste aussi de s'asseoir, puis que le parent, je pense, explique comment il se sent, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête en ce moment, pourquoi il n'est pas capable de se lever le matin, que ce n'est pas parce que le parent est fainéant, que le parent n'est pas travaillant. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a une espèce de lourdeur, une incapacité. Donc, c'est juste de dire les vraies choses, je pense.
Mais
l'enfant va comprendre, puis après ça, il va pouvoir le communiquer aux autres. Parce que moi, je me souviens là, que j'arrivais à l'école primaire, par exemple, puis je sais pas, là, j'avais pas fait signer mon devoir ou peu importe, mais c'était difficile d'expliquer parce que j'avais peur que mon prof, que les autres camarades de classe pensent que moi, je suis fou, que moi, je suis cinglé parce que ma mère va pas bien, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi pour un jeune. Donc, si à la
maison... T'imitais pas la signature de ta mère?
Bon, ça fait une couple de fois.
Moi, je t'ai devenue très bonne, moi.
Oui, oui, ah oui, c'est vrai. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, mais c'est ça, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, tu veux continuer à vivre. Mais c'est ça, sauf que je pense que c'est important à un moment donné aussi d'être capable de dire les choses à l'enfant pour que l'enfant puisse les communiquer comme il faut, puis qu'à l'école, que dans son milieu de travail, peu importe, mais qu'il soit capable de le dire, tu sais, parce que... Ouais. Si le tabou est au sein de notre famille, comment après ça on va au sein d'une famille où il y a une problématique en santé mentale, comment on va le briser dans la société, tu sais, si on n'est même pas capable d'en parler nous-mêmes dans notre propre famille.
Ouais, mais docteur Lamy, c'est justement tout le problème. Je pense que vous connaissez bien justement cette problématique-là. Vous avez affiché le problème de santé mentale que vous avez eu, puis d'ailleurs vous le dites dans votre livre, une dépression pour moi là, dont c'était le métier de la traiter, ça vous paraissait impensable.
Ben oui, c'est ça.
Vous avez même dit d'ailleurs, vous dites au début, on leur a raconté une belle histoire. On leur a dit, maman est fatiguée, il faut qu'elle se repose. Mais à un moment donné, quand la fatigue dure longtemps...
Ben, c'est que les enfants ne sont pas dupes.
Ben,
depuis tout petit, ils ressentent tout. Puis Jean-Philippe l'a très bien dit, ils ressentent tout, mais comprendre, c'est une autre affaire. Puis ils vont aller chercher des informations ailleurs. Alors imaginons la violence des informations qu'ils peuvent recevoir à l'école. Donc il faut absolument que le parent puisse dire avec ses mots, ses expressions, puis toutes ses émotions, ce qui se passe. On n'est pas obligé de tout dire d'un coup, mais il est important que l'enfant soit vraiment informé pour qu'il sorte effectivement de cette culpabilité-là. C'est vraiment important. Puis aussi, parce que l'enfant va avoir beaucoup de colère, on l'oublie beaucoup, beaucoup de colère contre le parent, mais qui ne va pas s'autoriser à exprimer contre ce parent qui est fragile. Donc il va souvent l'exprimer soit vis-à-vis de l'autre parent ou parfois à l'école. Et on a des drames scolaires où l'enseignant vient nous dire « je crois que l'enfant s'agite, il a un TDAH ». Puis si on n'est pas très, très, très vigilant, on peut très facilement prescrire les fameuses pilules alors que l'enfant est en train de vivre un drame à la maison. Puis l'agitation est une agitation anxieuse. Donc c'est ça, les enfants vont exprimer rarement l'anxiété et la tristesse sous leur forme qu'on connaît à l'âge adulte. J'ai tendance à dire, moi, à mes petits patients, la colère, c'est la tristesse ou l'angoisse qui sort déguisée. Donc c'est important d'être vigilant à ça.
Ouais. Puis vous dites aussi souvent, bon, c'est contre l'autre parent ou contre soi-même, l'enfant va s'en prendre à lui-même.
Tout à fait.
Il y a des enfants qui s'automutilent, il y a des enfants qui développent des idées même très noires.
Des idées suicidaires, oui, de plus en plus tôt. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe dans mon bureau. Et puis, un repli sur soi, une perte aussi de confiance en ses propres perceptions. Est-ce que je peux avoir confiance en ce que je vois, en ce que je ressens, alors que papa ou maman me dit, ben non, tout se passe bien. Il y a comme l'impression d'un monstre invisible dans le placard. Je l'entends gronder, mais maman ou papa continuent à me dire que non, il ne se passe rien. Donc, les enfants perdent effectivement le sens de leur propre perception, puis la confiance en l'adulte, vraiment.
Ouais.
Est-ce que je peux encore me fier à ce qu'on me dit?
Mais voilà, puis là, on prend pour acquis que dans une famille, il y a un des parents qui est atteint, mais quand c'est les deux, ça peut être des problématiques différentes. Là,
des problématiques très différentes, oui.
Ça peut être un père violent, une mère déprimée, ou l'inverse, ou... L'enfant, il va où dans ce temps-là?
Ben dans ces cas-là, c'est sûr, comme Jean-Philippe le disait, c'est important d'avoir des ressources, d'aller vers des ressources, en tout cas par rapport à l'enfant. C'est sûr que c'est difficile d'avoir accès aux ressources, on ne va pas se le cacher, mais au CLSC, en tout cas.
Mais il faut que quelqu'un l'amène, l'enfant.
Il faut que quelqu'un l'amène, c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aussi à l'école, vous êtes les premières sonneurs d'alarme quand vous voyez qu'il se joue quelque chose avec un enfant, plutôt que justement de faire rentrer l'enfant dans une case trop rapide d'un diagnostic de TDAH? Est-ce qu'on peut justement convoquer les parents, essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue? Les professeurs, les enseignants sont vraiment souvent les premiers sonneurs d'alarme par rapport à ce qui se passe à l'école.
Oui, c'est important. On dit souvent ça prend un village, mais dans ce cas-ci, c'est effectivement le cas. D'ailleurs, Jean-Philippe Dion, tu peux nous parler de ta campagne, les milléniaux, là, ouais. 18-25 ans?
Exactement. En fait, c'est ça. C'est donc le réseau de avant de craquer cette année. Ce qu'on veut, c'est parler aux milléniaux, aux gens donc 18-25 ans, là, même un peu avant, un peu après. On a un site en fait aidersansfiltre.com. Donc justement sans filtre. Ça fait référence à Instagram, aux filtres qu'on met, aux tabous ouais. également. Donc, tu sais, juste d'essayer d'en parler, parce que moi, j'ai plein de gens autour de moi aussi, des amis, des neveux, des nièces, que leurs blondes, leurs chums ont des problèmes en santé mentale. Puis c'est dur, ça, parce que, tu sais, quand t'es à cet âge-là aussi, t'es dans un rapport qui est pas non plus nécessairement clair, un rapport amoureux, t'es à tes débuts, tu sais pas comment aider l'autre personne. En même temps, tu veux pas couler. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est important aussi. Faut que toi, sois en forme, faut que toi tu sois solide ouais. pour aider quelqu'un d'autre. T'sais, si toi-même t'es pas capable de gérer ça, t'as pas les outils, tu te sens pas bien, faut pas que toi tu coules, parce que c'est ça qui arrive aussi souvent. T'sais, c'est que on veut aider une personne qui a une problématique en santé mentale, mais finalement on coule nous-mêmes parce que c'est trop exigeant, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'aide.
C'est le problème des aidants naturels finalement. C'est tout le problème des aidants.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit, donc, les milléniaux, tu sais, comme tout le monde, si vous arrivez dans un milieu de travail, vous avez un collègue qui a des problèmes, vous avez un parent, vous avez un chum, une blonde, ben, allez chercher de l'aide, allez sur ce site-là, aidersansfiltre.com pour avoir des références, des outils, des conseils. Puis, ayez pas peur non plus, d'un moment donné, de guider la personne vers l'hôpital, vers les ressources, vers l'urgence, tu sais, parce que moi, je trouve que le problème, là, en santé mentale, c'est qu'on attend beaucoup trop. Tu sais, on attend trop avant de consulter. Puis on attend trop après ça une fois qu'on est dans le système de la santé.
Tellement.
Parce que chaque jour là, compte. Donc allez-y, allez consulter rapidement.
Oui, parce que comme tu dis, il faudra de toute façon attendre sa ligne d'attente qu'il y ait un psychiatre qui soit disponible.
Oui,
et les ressources, si tu veux aller voir un psychologue, il faut quand même être en moyen. Hein? Il faut avoir les ouais. moyens de faire une dépression au Québec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous rappelle qu'on parle de ça parce que c'est à partir d'aujourd'hui que commence cette semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est jusqu'au 7 octobre. Donc, Jean-Philippe Dion vient de nous parler là, du réseau Avant de craquer. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir pris le temps. J'ai une petite dernière question pour toi. Ta mère, ça la dérange pas que tu en parles publiquement de ses problèmes?
C'est drôle que tu dises ça, Isabelle, parce que hier, je lui ai dit que j'étais pour être à ton émission pour en parler. Puis elle m'a dit, mais là, donne pas trop de détails. J'ai dit, parfait, ça, c'est notre limite, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a une, tu sais, je raconte, bon, qu'elle a des problèmes en santé mentale, puis je pense que c'est sa façon d'aider aussi, puis de briser le tabou. Mais évidemment, je rentrerai pas dans nos histoires familiales, puis dans le
ouais.
détail de ce qui lui est arrivé.
Ouais, non, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il y a bien des gens qui n'osent pas le dire parce que souvent on va dire, ben, mes parents sont encore vivants, donc on se sent pas habilité pour en parler parce ouais. que le parent est encore dans le déni, là. C'est pas évident du tout.
En même temps, je pense que si nous, on ne fait pas notre part, qui va le faire? Hein?
Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Jean-Philippe Dion, on va s'arrêter ici. On reste en compagnie du docteur Céline Lamy. Elle est pédopsychiatre. Elle vient de publier un livre que je vous recommande parce que vraiment, vous allez sans doute vous retrouver là-dedans. Ça parle de ces phases où on est frappé par la dépression, toute autre santé mentale. Il y a également, on va en parler après la pause, elle va nous suggérer des pistes de réflexion. Elle utilise le conte, entre autres, pour dire à nos enfants comment on se sent. Ça s'intitule « Il pleut à la maison ». C'est publié aux éditions de Mortagne. On revient tout de suite après avec vos commentaires, vos histoires. Si vous avez des questions, bien sûr, docteur Lamy, ne vous gênez pas. Et si vous êtes un de ces enfants qui a grandi dans une famille ou un des parents, des fois, c'est les deux qui ont vécu des dépressions, qui ont des problèmes de santé mentale, ne vous gênez pas pour nous le dire. On va vous écouter, bien sûr. Vous savez qu'on a toujours beaucoup d'empathie pour ce sujet-là, entre autres. 514-790-9850. Et sans frais, vous pouvez nous joindre partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. On est en compagnie du docteur Céline Lamy. Elle est pédopsychiatre. Elle vient de publier « Il pleut à la maison ». C'est un livre qui parle en fait de la difficulté que peuvent avoir des parents qui ont des enjeux de santé mentale pour le dire à leurs enfants. Puis docteur Lamy nous le dit dans ce livre-là. Puis elle l'a vécu elle-même parce qu'elle a eu un burn-out il y a 4 ans. Hein? Mm-hmm. Vous en êtes remise depuis. Vos deux enfants, d'ailleurs, des jumeaux, Adèle et Joseph,
oui.
dont on célèbre l'anniversaire, joyeux anniversaire Adèle et Joseph. Ils ont 9 ans aujourd'hui. Oui. Donc, ils avaient 5 ans.
Oui.
4-5 ans.
Oui, c'est ça.
Ça a duré combien de temps, votre burn-out?
Ben, en fait, ça a été étiqueté burn-out. Puis pour moi, c'était très clairement une dépression parce que ça a duré longtemps. Ça a duré quand même plusieurs mois de médication, de psychothérapie. Et puis, la remise debout a pris beaucoup de temps, en fait.
Ouais. Oui. Mais donc, aujourd'hui...
Aujourd'hui, ça va très bien.
Est-ce qu'ils en parlent, vos enfants, de ça? Est-ce qu'ils disent, maman...
Ils sont sensibles, en fait. C'est-à-dire que je peux, par exemple, être en face de mon fils, puis dire, maman, est-ce que ça va? Je te trouve plus triste. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus près de leurs émotions et c'est vrai, beaucoup plus sensibles. J'entendais Jean-Philippe dire, c'est des enfants qui sont quand même parfois un peu en hyper-vigilance.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on a décidé de leur parler, de leur dire les choses, justement, pour leur dire, vous n'avez pas à faire attention à maman, à être...
Mais c'est difficile.
C'est difficile, mais ils sont toujours à l'affût quand même, c'est sûr.
Ouais. On a Valérie qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute. Oui,
j'étais un petit peu émotive.
C'est correct.
Désolée.
Non, aucun problème, Valérie.
J'écoute votre invité, puis ça me fait réaliser que ma perception de maman atteinte de maladie mentale avec mes filles, mes enfants, ça doit être difficile pour elle. Tu sais, je réalise pas les petites choses qu'elles font qui sont probablement parce qu'elles réalisent que maman va pas bien.
Ouais. Est-ce que vous êtes suivie? Vous avez eu un diagnostic?
En fait, comme je disais à la personne là, qui
m'a recherché, c'est Isabelle.
Moi, j'ai 10 maladies mentales qui sont diagnostiquées en psychiatrie. Ça va bien. Ça fait environ 2 ans là, qu'on a vraiment trouvé la bonne molécule, le bon médicament. J'ai suivi plusieurs thérapies. Mais reste que je suis quand même une personne qui est très fragile.
Ouais.
Puis ça a été tabou toute ma vie. Moi, j'ai 38 ans. Du plus loin que je me souvienne, là, je disais à ma mère que je me sentais bizarre. Ma mère, elle répondait, ben voyons donc.
Ouais.
Dans le temps, dans les années 80, pas que ça existait pas, mais... C'était tabou.
Non, mais tellement, vous avez tellement raison. Ben oui, Valérie, ça fait pas longtemps qu'on se sent un peu plus à l'aise d'en parler.
Non, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, quand je parle à mes parents de cette situation-là, malgré que j'approche de la quarantaine, mes parents me disent qu'ils ne comprennent pas. Puis c'est correct. Je sais que c'est pas par manque d'amour. Je sais que c'est pas par manque de...
C'est qu'ils se sentent coupables, probablement. Ils se disent, qu'est-ce qu'on a pas fait?
Ma mère me le dit souvent.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui t'a rendu de même? Mais tu sais, c'est pas la faute à personne. Moi, mon cerveau est conditionné comme ça.
Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants, Valérie? Qu'est-ce que vous avez dit?
Tu sais, mes filles, ils savent que maman a des bobos dans sa tête, puis que je prends des médicaments. Puis elles le savent que je prends des médicaments, puis que c'est pour gérer les petits bobos dans ma tête. Mais tu sais, elles ont 4 ans et 7 ans.
Ouais.
La plus vieille vient tout juste d'avoir 7 ans. Fait que c'est difficile d'expliquer ça, je trouve, à des enfants de cet âge-là.
L'explication est déjà
tout
bonne.
Tout ce que j'ai vécu, mon Dieu, j'ai tellement de bébites dans ma tête, justement. Je peux pas commencer à expliquer ça à des enfants de cet âge-là.
Ouais.
Puis c'est difficile pour...
Avez-vous un conjoint qui peut le faire?
Oui.
Ouais.
Oui, ça fait 15 ans environ là, qu'on est ensemble. Donc, j'ai un très bon support de ce côté-là.
Et c'est là où le conjoint, Dr. Lamy, est important.
Le conjoint est important, effectivement, de vous supporter là-dedans, puis de parfois papa et maman peuvent s'asseoir puis expliquer les choses. Mais ce que vous avez expliqué, Valérie, à vos filles, c'est déjà super d'expliquer qu'il y a des choses qui se passent dans la tête, que vous prenez des médicaments. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. On va expliquer aux enfants en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur âge. L'important, c'est de valider ce qu'ils ressentent. Oui, parfois, tu sens que maman est fatiguée ou triste. Ben, t'as raison de ressentir ça. C'est ça qui se passe. Puis c'est important. J'insiste toujours auprès des parents d'être capable de parler de sa vulnérabilité. C'est important pour les enfants plus tard dans la façon dont ils vont aussi construire leur empathie puis leur relation avec les autres. Donc la façon dont vous le faites est parfaite. Puis il faut vraiment se rappeler que votre maladie ne vous définit pas. Vous êtes d'abord la maman de vos filles, mais cette maladie-là ne vous définit pas. Puis là, j'insiste toujours auprès des parents là-dessus.
Merci beaucoup, Valérie. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On a Diane avec nous. Bonjour, Diane.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, j'avais envie de partager. Moi aussi, je m'excuse, c'est la même chose. On dirait que ces sujets-là viennent nous chercher doublement.
C'est normal.
Alors, moi, j'ai 60 ans maintenant, mais il y a 45 ans, à l'âge de 15 ans, à partir de 15 ans, j'ai accompagné ma maman qui souffrait de dépression sévère. récurrente. Elle avait un bon bout, elle retombait un bon bout. J'ai fait, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai fait des démarches auprès, avec elle, auprès des hôpitaux. Mmh. Je l'ai fait hospitaliser. Et tout ce temps-là, je me confrontais à des gens que, quand on revenait dans un hôpital où elle avait déjà été, la première chose qu'on me disait, vous savez, votre maman, les symptômes qu'elle a, elle a pas mal dans le dos. Elle a des problèmes psychiatriques. Mmh. Donc, on voyait plus la personne, là. Ouais. Dès que tu es identifié que quelqu'un fait une dépression, on me disait même, votre mère, elle a la solution entre ses mains. Je disais, si vous la connaissez, la solution, elle est là. Mmh. Ma mère s'est laissée mourir. Ma maman est décédée d'une dépression. Mmh. Et moi, j'ai 60 ans et devinez ce qui se passe. Je suis quelqu'un de très fragile. Je suis quelqu'un qui est dépressive. J'ai une sœur qui est très fragile, qui a tenté de s'enlever la vie. Alors, on compose avec ça. Je suis bien suivie, je suis bien traitée. Mais quand j'ai des épisodes, je me sens triste pour ma fille qui a 34 ans, qui a deux beaux petits-enfants que j'adore. Et je veux pas qu'elle ressente ma douleur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me cache dans mon petit trou. Et j'attends de remonter à la surface.
Ouais.
C'est terrible, la maladie mentale. C'est terrible. Il faut en parler. Mais oui, il faut en parler, mais il faut mettre plus de ressources. Parce que oui, moi aussi, j'ai consulté, mais c'est beaucoup de sous. Alors, à ce moment-là, on donne des médicaments qui fonctionnent pour un certain moment, mais le médicament fonctionne à replacer certaines idées, mais il ne transforme pas la personne.
Non, c'est sûr, Diane. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Très touchant. J'ai envie de demander au docteur Céline Lamy, peut-être de... Parce que Diane posait une très bonne question, puis elle s'inquiète pour sa fille, pour ses petites filles. Elle a peur qu'elle ressente cette souffrance.
Mais en fait,
qu'elle même vit. Là.
Oui, les enfants le ressentent. Alors, il faut partir de ce postulat-là en se disant le fait de se cacher ou s'isoler va faire qu'ils vont pas le ressentir. Au contraire, donc parce que les enfants ressentent, parce que les plus grands le ressentent, c'est justement là qu'il faut mettre des mots. Nommer l'ennemi invisible pour établir des stratégies tous ensemble. Il faut réintégrer les enfants dans la famille.
Ouais.
C'est important.
Puis, vous suggériez, on n'aura pas le temps beaucoup d'en parler, mais vous suggérez la moitié de votre livre, c'est la troisième partie, en fait, c'est un conte pour ma maladie, une histoire pour lire et se dire. Mm-hmm. Évidemment, c'est pour des petits-enfants, pour les petits. Ça pour...
Mais les ados aiment ça aussi.
Je verrais bien Diane raconter ça à ses petites filles.
Oui.
Il était une fois, la maladie, la dépression, c'est quoi? Puis là, vous expliquez, puis il y a vraiment un conte pour chacune des maladies mentale que les gens peuvent ressentir. Donc, le conte, vous vous êtes rendu compte comme pédopsychiatre que ça peut aider facilement pour les enfants, pour qu'ils comprennent?
Ça fonctionne très, très bien. Et je raconte l'histoire de ce petit nourrisson de 14 mois qui était anorexique, avec une maman extrêmement dépressive, dépression du postpartum. J'ai écrit un conte à ce petit loulou-là, que la maman a lu, le papa a lu, et le petit garçon, dans les semaines qui ont suivi, s'est mis à remanger, parce que dans ce conte, il était dit que cet enfant, malgré la souffrance de la maman, cet enfant était désiré et aimé. C'était tout ce dont il avait besoin pour fleurir et pousser.
Il y a encore des gens qui voulaient intervenir. C'est un très beau sujet parce que ça permet à nos auditeurs qui sont dans cette situation-là d'avoir un petit peu d'outils. Je rappelle votre livre « Il pleut à la maison ». C'est publié aux éditions de Mortagne. Ça vient de sortir ces jours-ci. Écrit par le docteur Céline Lamy. Elle est pédopsychiatre et elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est passée par là. Merci beaucoup, docteur Lamy. C'est vraiment très intéressant. Je vous rappelle qu'on est en pleine semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est fort possible que d'ici à la fin de la semaine, on en reparle. À tout de suite, tout le monde. Après la pause, nous allons parler des hasards de la vie. Est-ce que vous y croyez? Mon invité, Jean-François Barry, y croit, lui. À tout de suite, tout le monde.